le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, je suis avec Agnès de France. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Agnès de France, qui est membre du conseil d'administration de SOS Méditerranée France et qui est bénévole à l'antenne de l'Hérault. Et aujourd'hui, on va donc parler d'SOS Méditerranée, de ses missions. Et avant ça, on va peut-être, vous pouvez revenir sur la création de l'association. Comment est-ce que c'est venue cette idée de sauvetage en mer?
Oui, mais tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, SOS Méditerranée, c'est une association européenne de citoyens qui se sont mobilisés pour porter secours à des personnes en danger qui tentent de traverser la Méditerranée centrale, l'axe maritime migratoire l'un des plus mortels au monde. Alors, nous sommes créés en mai 2015. À la suite d'une situation catastrophique en mer Méditerranée centrale, puisque depuis 2014, nous dénombrons plus de 22 000 morts. Donc en 2015, la situation était extrêmement compliquée. Il n'y avait plus de moyens de recherche et de sauvetage suffisants et...
Donc il n'y avait plus de moyens de sauvetage suffisants, ça veut dire que les autorités faisaient déjà des sauvetages en mer oui. Avant que vous interveniez?
Oui, il faut peut-être qu'on reprenne un petit peu plus en amont. Lorsque en novembre 2013, il y a eu un naufrage très très important au large des côtes de Lampedusa. Et là, l'opinion publique a été extrêmement choquée, l'Italie principalement, puisque c'était un naufrage qui a eu lieu sur ses côtes. Et à la suite de cela, l'Italie a mis en place un système de sauvetage et de recherche et de sauvetage qui s'est appelé Mare Nostrum et qui a permis en une année, en 2014-2015, de porter secours à 150 000 personnes. Ça a été énorme. Mais dès le départ de cette opération, l'Italie a demandé la solidarité européenne, a fait appel à la solidarité européenne pour que financièrement et en termes de moyens, on puisse l'aider, les États de l'Union européenne puissent l'aider. Cette aide n'est jamais venue et l'Italie n'a pas pu assurer plus longtemps cette opération Mare Nostrum.
Ça a duré que 2 ans et...
Une année seulement. Oui.
Et en une année, on a quand même réussi à sauver 150 000 personnes.
C'était énorme, extraordinaire. Et donc, SOS Méditerranée se crée dans cette période où il n'y a plus ce système-là, ce dispositif, et où les morts... Et les naufrages sont de plus en plus nombreux, au point que l'on parle de la Méditerranée comme un cimetière. Et c'est à ce moment-là que deux personnes se sont rencontrées, Klaus Vogel, un capitaine de la marine marchande allemand, et Sophie Beau, une humanitaire française. Et tous les deux ont eu cette idée, qui peut-être paraissait un peu folle au départ, d'affréter un navire et de partir en mer pour porter secours à ces personnes. Donc affréter un navire, eh bien, ça voulait dire trouver des fonds. Donc il y a eu une campagne de collecte qui a été lancée et en très peu de mois, on a eu l'argent pour affréter l'Aquarius, notre premier bateau, qui est parti de Marseille en février 2016 et a assuré son premier sauvetage en mars 2016. Et donc... C'est la société civile qui s'est mobilisée pour pallier à l'absence des États pour porter secours.
Donc, votre association, elle est principalement bénévole depuis le départ. Ça n'a jamais été privé ou quoi que ce soit.
Non, c'est une association citoyenne, alors qui a maintenant une partie de personnel salarié. Ce sont les marins sauveteurs de l'équipe opérationnelle en mer, une partie de l'équipe médicale qui est également sur le bateau, et ensuite une petite équipe salariée à terre répartie entre entre le siège social de Marseille et un autre siège social à Paris. Et ensuite, nous sommes dans les 700 bénévoles en France, répartis dans 19 antennes régionales. Et là, ce sont uniquement des bénévoles qui sont dans ces antennes régionales et qui assurent la troisième mission de SOS Méditerranée, qui est le témoignage. À côté de sauver, de protéger les personnes rescapées, il y a ensuite témoigner de ce qu'elles ont vécu, témoigner de ce qui se passe en mer Méditerranée, de cette absence de sauvetage, de système de sauvetage, et témoigner aussi de ce que fait l'association, et bien sûr collecter des fonds, puisque une journée en mer de notre bateau, l'Ocean Viking, coûte actuellement 24 000 euros.
Une journée seulement ?
Une seule journée en mer, oui.
Oui, donc ça demande des moyens financiers assez importants, oui, effectivement.
Ouais.
Donc vous avez dit que les objectifs de l'association, c'était de sauver, de protéger, de témoigner. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça ? C'est des objectifs qui sont quand même assez hauts.
Ambitieux.
Très ambitieux. C'est quoi votre activité ? Qu'est-ce que vous faites certainement des campagnes ? Vous avez quoi comme campagne chez SOS Méditerranée ?
Alors oui, c'est effectivement une mission ambitieuse, des missions ambitieuses, mais à comparer avec une vie humaine, rien n'est trop ambitieux. Puisque l'important pour nous, c'est de porter secours à ces personnes. On s'est créé donc sur cette base-là, qui repose sur des droits légaux, et des droits humains.
Oui, et c'est vrai que souvent on résume cette situation à des chiffres, mais il ne faut pas oublier que derrière, ce sont des vies humaines, ce sont des êtres humains.
Voilà.
Et ça, c'est important de le souligner, que ce soit pour SOS Méditerranée ou pour Amnesty International. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout travailler avec l'humain et protéger des vies humaines et des droits humains,
oui.
Encore une
oui.
fois.
Oui, oui. Et l'obligation de sauver une embarcation en danger, c'est effectivement une obligation légale. C'est de ne pas porter secours à une embarcation en danger qui est en dehors, qui est illégale.
Effectivement.
Donc pour nous, nous sommes constitués sur la base de ce droit incontournable. Alors, vous me demandiez les moyens. Donc, nous avons effectivement deux grandes périodes de collecte dans l'année, la collecte d'été et la collecte d'hiver, qui sont deux grands moments forts où toute personne qui le souhaite peut bien sûr donner. Après, on peut donner tout au long de l'année et une partie de notre budget est justement stabilisée grâce aux dons réguliers que font beaucoup de gens, et c'est quelque chose qui permet de stabiliser un peu le budget, puisque 91% de notre budget est assuré par les dons citoyens.
D'accord, ce qui vous permet aussi une certaine indépendance politique.
Nous sommes totalement indépendants, puisque nous ne percevons pas d'argent des États du tout. Alors, je vous ai parlé de 91% apportés par la société civile, les 10%, 9% restants le sont également, mais à travers des subventions qui nous viennent de collectivités qui, depuis quelques années, constituent la plateforme des collectivités solidaires de SOS Méditerranée, donc des collectivités territoriales qui peuvent être des régions, des départements, des villes, des communautés de communes, qui votent une subvention à SOS Méditerranée.
D'accord. Et vous êtes uniquement en France, du coup, ou c'est en Allemagne aussi, vu qu'il y avait le capitaine allemand
à l'origine
de ça aussi ?
Effectivement. À l'origine, nous étions présents en France et en Allemagne, et nous avons été rejoints par la Suisse et l'Italie. Actuellement, 4 pays composent le réseau européen de SOS Méditerranée.
D'accord. Et donc, tous ces pays participent au financement
oui.
de l'association, de la oui. même manière, toujours la société civile
Voilà. Alors, après, dans chaque pays, le bénévolat ne fonctionne pas de la même façon, les dons, pas toujours de la même façon, mais c'est le principe, effectivement, c'est la société civile qui fait vivre SOS Méditerranée et qui permet d'assurer ses missions.
D'accord. Alors justement, ces missions, en quoi est-ce qu'elles consistent ? Comment est-ce que ça se passe, les opérations de oui. SOS Méditerranée, concrètement ?
Voilà. Donc, sauver, protéger, témoigner. Donc, notre outil de travail, c'est le bateau. Actuellement, donc, c'est l'Ocean Viking qui a pris la suite de l'Aquarius.
Mmh.
Donc, c'est un bateau peu près 70 mètres de long, qui a une capacité importante pour recueillir les personnes rescapées. Nous avons sur ce bateau une clinique qui nous permet, donc, au-delà de sauver les personnes, de les protéger, de les soigner, parce que donc, ces personnes, comme je vous l'ai dit, partent de Libye. Et avant d'arriver en Libye, elles ont généralement vécu une autre route migratoire, utilisé d'autres routes migratoires qui sont terribles à travers le désert. Donc il y a déjà pour ces personnes-là la traversée du désert, l'arrivée en Libye qui est un pays en guerre où il y a peu de lois et où l'esclavage est pratiqué à grande échelle. Les maltraitances sont pratiquées également de façon terrible et tout cela est très documenté. Et donc, ces personnes, quand elles quittent la Libye, elles quittent un pays où elles ont été maltraitées, violées, vendues, raquettées, etc. Elles sont parfois blessées par balles aussi lorsqu'elles arrivent sur le bateau. Et donc, elles embarquent sur des embarcations de fortune ou qui ne sont pas aptes, bien sûr, à la navigation, pas aptes à traverser les 450 km qui séparent les côtes libyennes des côtes italiennes. Et donc, elles arrivent dans des états de fatigue et d'épuisement terrible. Donc, même si elles ne sont pas blessées par balles ou elles ont subi des mauvais traitements, elles ont été plusieurs heures en mer, sans boire, sans manger la plupart du temps. Donc, tout le monde arrive dans des situations très, très difficiles. Donc, le sauvetage, leur éviter de perdre la vie, puis les protéger. Donc ce sont nos équipes à bord de marins sauveteurs, les équipes médicales. Il faut signaler qu'on est en partenariat avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la partie médicale.
D'accord, donc qui vous aide aussi à bord
qui apporte ses compétences médicales aussi sur le bateau. Et ensuite, la mission de sauvetage va s'arrêter pour nous, donc la mission de SOS Méditerranée va s'arrêter lorsqu'on va pouvoir débarquer les personnes rescapées dans un port qui est dit port sûr selon la loi. Alors ce n'est pas nous qui le choisissons, ce port. Nous attendons que les autorités maritimes en charge de la zone internationale sur laquelle nous travaillons nous désignent le port. Alors, théoriquement, ça devrait être les gardes-côtes libyens qui nous désignent le port, puisque c'est maintenant la Libye qui doit gérer cette partie des eaux internationales. Or, la Libye ne le fait pas, parce D'accord. qu'elle n'en a pas les compétences, parce que elle est sur cette zone, mais pour tenter de ramener les gens en Libye.
Oui, donc ce qui n'est pas du tout le même objectif.
C'est pas ce que l'on cherche. Donc nous demandons également à l'Italie et à Malte, et c'est l'Italie qui nous répond et qui nous désigne un port, généralement en Italie.
D'accord, donc et en fait c'est le plus souvent l'Italie qui va vous diriger sur les zones à débarquer.
Tout à fait, tout à fait.
Donc l'Italie reste un point extrêmement important, une tout plateforme pour les réfugiés, notamment les réfugiés qui sont dans la Méditerranée, oui. pour ensuite pouvoir avoir accès à l'Europe.
Voilà, alors nous, effectivement, lorsque nous entrons dans le port et nous débarquons, là, notre mission s'arrête pour nous. Puisqu'à partir du moment où les personnes rescapées posent le pied à terre, ce n'est plus la mission de sauvetage. Le sauvetage s'arrête au débarquement.
D'accord.
Donc sauver, protéger, ça ce sont les actions qui se passent sur le bateau pour nous. Et notre troisième action est le témoignage.
Donc vous continuez quand même à suivre pour cette mission de témoignage, comment est-ce que ça se passe?
Alors, la mission de témoignage est assurée par tous les membres de SOS Méditerranée, qu'ils soient salariés ou bénévoles, parce que sur le bateau, nous recueillons des témoignages des personnes rescapées. Et c'est comme ça que l'on peut parler de ce qui se passe en Libye, de ce qu'elles ont vécu, ces personnes, comme maltraitance, de quel est leur parcours aussi, d'où ils viennent. Ça, ils nous le disent. Et donc, on peut témoigner de cela. Et ça, ensuite, on partage ces témoignages dans toute l'association des SOS Méditerranée. Et c'est la matière de notre témoignage.
D'accord. Donc vous récoltez les témoignages directement sur le bateau. Oui. Et je reviens un petit peu en arrière. Comment est-ce que vous trouvez les personnes que vous sauvez ? Est-ce qu'il y a, des personnes qui lancent des appels ? Ou alors est-ce que vous devez chercher vous-même au milieu de la Méditerranée ?
Oui, il y a tout effectivement.
Il y a plusieurs moyens
Trouver les personnes. Déjà sur le bateau, il y a une veille aux jumelles.
D'accord.
Mais c'est quelque chose de très très difficile parce que les embarcations, vous les avez vues, ces petites embarcations, parfois en plastique,
c'est difficile ou des barques,
qui sont très très difficiles à repérer. Donc aux jumelles, c'est extrêmement complexe. Mais par contre, donc on est plusieurs ONG. Donc, il peut y avoir aussi une collaboration, bien sûr, entre les ONG, avec aussi parfois les gardes-côtes italiens qui peuvent nous signaler un naufrage ou un risque de naufrage et nous demander d'intervenir si nous sommes les plus proches.
Donc, vous travaillez quand même de concert avec les autorités
italiennes.
D'accord. Pas les autres.
Les autorités libyennes ne nous signalent jamais une embarcation en danger.
D'accord.
Puisqu'elles, le but, c'est de les ramener en Libye.
Alors, mais voilà, au contraire.
C'est pas le cas. On est également aidé par deux associations et également deux ONG, une allemande et une française, chacune possédant un avion. Un petit avion qui permet de survoler et donc de voir
sur un peu plus de repérage,
beaucoup plus large. L'ONG française, c'est Pilote Volontaire, qui a un petit avion qui s'appelle le Colibri et qui nous aide grandement et qui aide toutes les ONG, la petite dizaine d'ONG qui est en mer sur le même secteur que nous. Donc il y a tous ces moyens-là. Et puis il y a également une autre ONG qui est une plateforme téléphonique allemande, qui s'appelle Alarm Phone, et donc uniquement une plateforme téléphonique, qui, donc, c'est un numéro d'urgence.
D'accord.
Et donc, des embarcations en danger peuvent parfois se signaler parce qu'elles ont connaissance de ce numéro de téléphone, et la plateforme, ensuite, diffuse le message, et donc,
on peut essayer de retrouver
l'embarcation
les personnes,
est ainsi identifiée. Et donc, les gardes-côtes italiens, qui gèrent donc aussi à peu près cette zone, donnent l'ordre à l'ONG la plus proche ou eux-mêmes d'intervenir en fonction de la situation géographique des bateaux.
Voilà. D'accord. Donc tout ça, c'est un travail qui est vraiment colossal. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est avec ce travail, j'imagine que vous avez beaucoup de victoires également. En tout cas, on va essayer de donner un petit peu d'espoir aux gens qui nous écoutent.
Tout à fait, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous parler des plus grosses victoires, selon vous, de SOS Méditerranée ?
Déjà, donner le chiffre des personnes secourues, tout de même, parce que c'est un travail colossal réalisé par les équipes de marins sauveteurs et les équipes médicales. Depuis donc février 2016, nous avons porté secours à 39 435 personnes, hommes, femmes et enfants.
Donc c'est un chiffre qui est...
C'est un chiffre
qui est
important. Qui est important, mais voilà, pour nous, on ne peut pas s'empêcher de le mettre en regard des personnes disparues en mer Méditerranée,
évidemment,
qui sont toujours trop nombreuses. Mais néanmoins, cette victoire, elle est là grâce au travail des marins sauveteurs, des équipes médicales, et elle est là grâce à la société civile qui continue à se mobiliser pour apporter financièrement de quoi faire tourner le bateau, puisque une journée en mer coûte 24 000 euros. Donc c'est quand même une victoire, depuis 2016, arriver à faire fonctionner ce navire avec cet argent et avec cette solidarité. C'est ça la victoire. C'est la solidarité citoyenne qui s'est mise en place malgré l'absence d'action des États. C'est la société civile qui porte l'action de SOS Méditerranée.
Et d'ailleurs, en parlant de l'absence des États, est-ce que vous avez également des revendications plus politiques, peut-être auprès de gouvernements ou auprès de l'Union européenne, à l'international ? Est-ce qu'il y a des demandes de la part de SOS Méditerranée ? Est-ce qu'il y a des moyens de pression également ?
Alors, la demande, c'est la mise en place d'un système de recherche et de sauvetage géré par l'Union européenne sur cet axe maritime migratoire qui est terrible en termes de mortalité. Il faudrait qu'il y ait cette solidarité européenne pour aider les pays de premier accueil, hein, qui sont sur toute la Méditerranée, la Grèce, au niveau de la Méditerranée orientale, l'Italie, la Méditerranée centrale, l'Espagne sur la Méditerranée occidentale. Il faudrait qu'il y ait cette solidarité. Ce n'est pas au seul pays de premier accueil de porter cette mission-là. Et puis, après, une solidarité qui demeure pour accueillir, traiter dignement ces personnes et répondre à leurs demandes d'asile, leurs demandes lorsqu'ils arrivent en Europe pour être accueillis dignement.
Et que ces personnes soient protégées même c'est une ça. Fois à terre, parce que vous, votre mission s'arrête, mais finalement, il y a encore tout un parcours qui est hyper important pour les réfugiés.
Oui.
Alors, avec toutes ces informations et toutes ces victoires de la part de SOS Méditerranée, peut-être qu'il y en a certains et certaines parmi vous qui nous écoutez, qui voudraient rejoindre l'asso.
Oui.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre SOS Méditerranée en Hérault ?
Alors, on peut rejoindre l'antenne héraultaise de SOS Méditerranée en prenant contact avec nous. Notre adresse, c'est antenne 34, tout attaché, @sosmediterranee.org. Si les gens n'ont pas eu le temps de noter, ils peuvent repartir, regarder le site de SOS Méditerranée
tout
où tout est là. Et ensuite, en quoi consiste l'engagement ? Parce que c'est cela,
c'est ça qui
surtout.
Est important.
Donc, c'est ce témoignage, cette sensibilisation qui prend plusieurs formes, dont celle qui nous permet d'intervenir en milieu scolaire. La sensibilisation scolaire, pardon, c'est extrêmement important parce que sensibiliser les plus jeunes, leur expliquer ce qui se passe, leur expliquer pourquoi on ne peut pas laisser mourir des personnes en mer sans leur porter secours, c'est quelque chose de primordial. Donc ça, c'est un axe extrêmement important, une activité extrêmement importante des bénévoles, parce que expliquer aux plus jeunes, c'est la société de demain. Hein. Oui. Après cette sensibilisation, on peut la faire comme je la fais aujourd'hui en témoignant à la radio. On est très présent sur beaucoup d'événements culturels également. On est parfois présent lors de projections débats, projections cinématographiques, projections et débats au cinéma. On peut peut-être parler justement.
Oui, d'ailleurs, justement, vous avez fait une projection débat sur un film qui s'appelle Moi, capitaine. Vous avez fait cette projection du coup hier, le 25. Et vous allez refaire des projections. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du film Moi, capitaine, qui est en partenariat d'ailleurs avec Amnesty International.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est un film qui est sorti en fin d'année dernière et qui est actuellement dans les salles, qui est réalisé par Matteo Garrone, un réalisateur italien. Et donc ce film qui est très largement joué par des acteurs non professionnels relate le parcours migratoire que l'on évoque, nous, très très souvent à SOS Méditerranée, constamment à SOS Méditerranée, de deux jeunes Sénégalais qui quittent leur pays pour rejoindre l'Europe. Eux souhaitaient vraiment rejoindre l'Europe, ce qui n'est pas le cas de toute personne qui quitte son pays. Là, c'est parfois plutôt une volonté d'aller dans un autre pays d'Afrique, mais pour ces deux jeunes-là, c'est la volonté de rejoindre l'Europe. Et donc, dans ce film, il y a tout. Il y a la traversée du désert et ce qu'elle a de terrible. Il y a le passage en Libye et les maltraitances subies en Libye. Il y a cette traversée terrible, par contre, qui n'est pas tout à fait celle que nous connaissons, puisque dans le film, il n'y aura pas l'arrivée d'une ONG, mais je ne veux pas trop non plus dévoiler la fin du film. C'est un film extrêmement fort, un film témoignage, coup de poing, qui permet, je pense, à un plus grand nombre de se rendre compte de ce qui se passe réellement, et dans le désert, et en Libye, et sur cette mer Méditerranée, quand on embarque dans des moyens qui ne sont pas aptes à la haute mer.
Donc ça permet aussi de réhumaniser un petit peu le débat autour des réfugiés, autour des migrants dans la Méditerranée et puis ailleurs d'ailleurs, parce que c'est pas les seuls endroits où il y a des migrations.
Non, du tout.
Donc vous allez bientôt refaire une projection débat à l'Utopia.
C'est cela.
Pas encore de date fixée, donc n'oubliez pas de suivre sur les réseaux de SOS Méditerranée.
Fin janvier, début février.
Voilà, c'est très prochainement si vous voulez aller voir ce film. Et donc si vous voulez vous engager, encore une fois, allez sur le site de SOS Méditerranée. Ou alors sur les réseaux, on peut vous contacter aussi.
Tout à fait, oui, sur les réseaux sociaux, vous nous trouvez très facilement.
Voilà, donc l'engagement bénévole à terre, ça va plus être de la sensibilisation, comme vous disiez.
Oui.
J'imagine qu'on peut aussi s'engager en mer en tant que bénévole, mais ça c'est autre chose.
Alors, on n'a plus de bénévoles.
D'accord,
en mer.
C'est que,
on a
des professionnels.
Des marins professionnels et du personnel médical professionnel. Par contre, il est possible de déposer un CV. Il faut passer par le site de SOS Méditerranée. Et donc,
C'est possible de travailler pour SOS Méditerranée dans ces conditions-là, si vous avez les qualifications requises. Et un autre engagement qui reste quand même important pour une ONG qui dépense de l'argent pour sauver des vies, c'est aussi un engagement financier.
Oui.
Donc vous pouvez également faire un don ponctuel ou régulier à SOS Méditerranée via le site.
C'est cela.
Exactement. Donc je vous invite encore une fois à aller suivre les réseaux de SOS Méditerranée, ne serait-ce que pour venir voir le film que vous allez présenter, suivi d'un débat à l'Utopia très prochainement. Et nous, on va vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end sur Radio FM+. Et merci encore une fois Agnès de France d'être venue témoigner pour SOS Méditerranée.
Merci de votre soutien.